célèbre celle qui n'est qu'une longue trêve de plaisanterie. La vie est courte et cette salope est unique, ironique, son mérite d'être vécu. Pas venu étaler nos souffrances, j'ai pas que ça à faire frère, mes thèmes viennent de la souffrance même. Je sais qu'avant de tirer tu respires un grand coup, connais-tu lorsqu'on braque cette douleur qui te prend le cou. De partir je m'en fous, je crains que la manière, ce monde n'est pas le mien. Même si je m'en sors bien, j'ai mal au mic, c'est la seule tristesse que je ressens. Tu m'as planté dans le dos, y'avait pas de sang. Car c'est du son qui coule dans mes veines en BPM. Musique, t'es ma milady sans belle mélodie. Mec, j'ai mal au mic, c'est la seule tristesse que je ressens. Tu m'as planté dans le dos, y'avait pas de sang. Car c'est du son qui coule dans mes veines en BPM. Musique, t'es ma milady sans belle mélodie. Mec, j'ai mal au mic, c'est la seule tristesse que je ressens. Tu m'as planté dans le dos, y'avait pas de sang. Car c'est du son qui coule dans mes veines en BPM. Musique, t'es ma milady sans belle mélodie. Mec, j'ai mal au mic, c'est la seule tristesse que je ressens. Tu m'as planté dans le dos, y'avait pas de sang. Car c'est du son qui coule dans mes veines en BPM. Musique, t'es ma milady sans belle mélodie. Mec,
chez moi, sous le feu, la guerre, fou de Dieu et soldat, je n'ai plus de terre que ce rêve-là. Au bout de la mer, l'île de Lampedusa, dans ce bateau de misère, 500 visages d'effroi, loin l'Europe et l'Angleterre. Je prie Dieu pour qu'il ne nous abandonne pas. Je n'ai plus de nom, je ne suis plus moi. Ta télévision m'appelle migrant, je crois. Je n'ai plus d'argent, ces maudits passeurs. Mon prix tant et tant, je n'ai plus que ma peur. Adieu mon pays que j'aimais tant. Mon travail et ma maison. Dans le vent, le cri des enfants. J'espère qu'un jour le monde retrouvera la raison. Que Dieu ait son âme, je garde son sourire. Je n'ai plus d'hier, donne-moi un demain. Rouge dans mes artères, mon sang comme le tien. Les côtes de Libye s'effacent, et mon espoir avec elle. Si je vis, je ferai face. Si je meurs, j'irai te rejoindre, ma belle. Paya papa pala paya. Pas de la vie. Pas de la vie. Pala pala ma paya papa pala paya. Pas de la vie. Pas de la vie. Pala pala ma paya papa pala paya. Pas de la vie.
Radio Libertaire 89.4, la radio sans Dieu, sans maître et sans publicité. Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans le Tour du Monde Libertaire. Une émission, donc, j'ai été surpris par l'arrêt du générique. Une émission animée par Jean-Pierre Lacanaille et en régie, et bien sûr, micro ouvert, Monique. Bonjour Monique.
Bonjour.
Toujours aux commandes. C'est parti donc pour le Tour du Monde Libertaire, le journal sans Dieu, ni maître, ni publicité de la Fédération anarchiste, le ML pour les intimes. C'est encore un Tour du Monde Libertaire un peu spécial que la présente émission, puisqu'elle ne va pas vous présenter le monde libertaire à paraître. Attention ! Si le Monde Libertaire ne sort pas début juillet, vous aurez droit à un Monde Libertaire spécial été dans très peu de temps. Je ne peux pas vous en parler puisqu'il est encore en gestation. Ce que je peux vous dire, c'est qu'on y parlera lecture, émotion de lecture, réflexion sur des lectures, etc. Mais alors, que faites-vous à ce micro, mon cher Jean-Pierre Lacanaille, me direz-vous ? Que n'êtes-vous en terrasse à siroter un cocktail ? Ah, mes amis, moi aussi, quand j'ai su que je n'aurais pas de monde libertaire à vous présenter, j'ai tout de suite pensé transat, parasol et mojito. Hélas, la nuit dernière, le fantôme de Bakounine est venu me tirer par les pieds. Écoute-moi, qu'il m'a dit. Tu files la publico, fissa, tu me trouves les numéros 1843, 49, 31, et tu me prépares une émission pour demain. Si tu refuses, je te transforme en tapis de chiottes de Darmanin. Ah, monsieur Bakounine, c'est la loose. Il est 3h du matin, il faut que je prévienne Monique. Elle va pas aimer que je la réveille en pleine nuit, elle va encore me battre. La révolution vaut bien une torgnole, qu'il a répondu. Lève-toi, la canaille, et suce au Dieu, au maître, au capitalisme et à l'État. Et voilà. Voilà pourquoi et comment je me trouve ici, dans ce studio, à vous raconter toutes ces choses dont vous n'avez rien à faire. Vous allez me dire, mais pourquoi les numéros 1843, 49 et 31 ? Et parce que c'est le fantôme de Bakounine qui les a sélectionnés et que je n'ai pas envie de finir tapis de chiottes chez Darmanin, même s'il est en vison. D'autant que, comme ses flics, il ne s'est pas visé. À part ça, bah ça va. Ça va bien pour les fachos, un peu moins bien pour les écolo-terroristes radicalisés et ultra-violents. Dissolution des soulèvements de la Terre et visite de Ben Salman et Giorgia Meloni. Manoukian au Panthéon et réduction du droit d'asile. Tout va bien. Ça va bien dans la finance. Après la réforme sur les retraites et l'assurance chômage, baisse des dépenses de santé, mesures contre les arrêts maladie et les dérives des dépenses en médicaments. Les aides au logement et le soutien à l'emploi, notamment la formation professionnelle, sont également dans le viseur de ce gouvernement de snipers. Mais on crée France Travail et bientôt le STO pour les plus précaires d'entre nous. En vérité, je vous le dis, la canaille, numéro 1843, 49 et 31 du monde libertaire. Oui, monsieur le fantôme de Bakounine, criez pas. Je voulais juste donner un peu de nouvelles, comme le monde libertaire est un peu en vacances. Mais on y va, je vous jure, juste après cette chanson.
Quand le jour de gloire est arrivé, comme tous les autres étaient crevés, moi seul connu le déshonneur de ne pas être mort au champ d'honneur. Je suis la mauvaise herbe, braves gens, c'est pas moi qu'on rumine et c'est pas moi qu'on met en gerbe. La mort faucha les autres, braves gens, et me fit grâce à moi, c'est immoral et c'est comme ça. la 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 la. Et je me demande pourquoi, bon Dieu, ça vous dérange que je vive un peu. Et je me demande pourquoi, bon Dieu, ça vous dérange que je vive un peu. La fille à tout le monde a bon cœur, elle me donne au petit bonheur les petits bouts de sa peau bien cachés que les autres n'ont pas touché. Je suis de la mauvaise herbe, brave Jean, brave Jean. C'est pas moi qu'on rumine et c'est pas moi qu'on met en gerbe. Elle se vante aux autres, brave Jean, brave Jean. Elle se donne à moi, c'est immoral et c'est comme ça. La 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 la. Et je me demande pourquoi, bon Dieu, ça vous dérange qu'on m'aime un peu. Et je me demande pourquoi, bon Dieu, ça vous dérange qu'on m'aime un peu. Les hommes sont faits, nous dit-on, pour vivre en bande comme les moutons. Moi je vis seul et c'est pas demain que je suivrai leur droit chemin. Je suis la mauvaise herbe, brave Jean, brave Jean. C'est pas moi qu'on rumine et c'est pas moi qu'on met en gerbe. Je suis de la mauvaise herbe, brave Jean, brave Jean. Je pousse en liberté dans les jardins mal fréquentés. La 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 la. Et je me demande pourquoi, bon Dieu, ça vous dérange que je vive un peu. Et je me demande pourquoi, bon Dieu, ça vous dérange que je vive un peu.
Radio Libertaire 89.4, vous écoutez le tour du monde libertaire avec donc ce numéro 1831 de septembre 2021 qui consacrait son numéro à qui ? À lui-même, le monde libertaire. Le monde libertaire, un jour, le monde libertaire, toujours. Tous les journaux d'idées naissent quelque part à un moment donné et pour certaines raisons. Aussi souvent, très souvent, il ne dure que le temps d'une révolte ou d'un espoir, le temps d'un hiver trop long ou d'un printemps trop bref. Naître, vivre, mourir, il en est des idées comme de la vie. Pour ceux qui échappent à l'éphémère, c'est souvent, très souvent, pour regarder par trop l'avenir dans le rétroviseur de la nostalgie qu'il se consume lentement, à petits pas, du lit au fauteuil et du fauteuil au lit. Pire, certains d'entre eux, prenant de l'embonpoint politique ou financier, n'en finissent plus de perdre leur âme au fur et à mesure que le ventre leur grignote chaque jour un peu plus le cœur. Dans ce paysage lunaire, le monde libertaire fait assurément désordre en tordant le cou à cette règle d'airain. De par ses origines multiples, laissant croire qu'il serait de nulle part, il s'avère en fait de partout. De partout où la révolte gronde contre l'injustice et l'oppression. De partout où l'espoir en une société de liberté et d'égalité refuse de se conjuguer au temps rance des lendemains soi-disant chantants, les seuls petits matins blêmes. De partout où on ne remet pas à demain ce qu'on peut faire ou commencer à faire le jour même. De partout où on ne confond pas le pouvoir des mots avec les mots du pouvoir. De partout où on préfère allumer une seule et minuscule bougie que de maudire sans fin l'obscurité. De partout où l'action démontre que les seules choses impossibles à réaliser sont celles auxquelles on ne croit pas vraiment. De partout et donc sans frontières. Le monde libertaire est également de toujours et d'à toujours. Il est de ces milliards de visages de l'éternel humain qui préférera toujours vivre debout plutôt qu'à genoux. Il s'habille de papier journal, de livres, de librairie, arpente les derniers maquis d'une toile dévorée par les araignées de la liberté, du renard libre dans le poulailler libre et du moi-je, moi d'abord, moi seulement. Murmure et tonne sur les ondes de quelques radios dont Radio Libertaire, crie ses colères dans la rue, se retrousse les manches dans les innombrables alternatives en actes, préfère l'action aux élections, le temps long de la révolution sociale, aux instants de l'agitation par ailleurs nécessaires pour faire face
aux urgences de tous ordres, dont celle majeure de l'effondrement des conditions mêmes de la vie humaine sur cette planète qui est en train de dévaler la pente de l'inéluctable. Pour l'heure, Le Monde Libertaire est le journal papier et numérique de la Fédération anarchiste francophone qui présente la particularité d'être ouverte à toutes les couleurs de l'arc-en-ciel anarchiste et de n'avoir pour seule ambition que d'œuvrer en tant que minorité agissante à l'édification, avec d'autres et le plus grand nombre, d'une société sinon libertaire, du moins fonctionnant de manière libertaire, pluraliste et laïque, sans dieu ni maître de préférence. Étonnant, non? C'était donc cet article de Jean-Marc Reynaud qui ouvrait le dossier consacré au monde libertaire dans ce monde libertaire de septembre 2021. Tout à l'heure, on écoutait, vous l'avez reconnu, Brassens, c'est la mauvaise herbe. Et maintenant, on va écouter une chanson de Mistinguette, interprétée par Mistinguette, intitulée « J'en ai marre ». Et juste, je vous l'annonce avant parce que, ouvrez bien vos oreilles, ça gratte un peu. Monique, tu peux peut-être monter un tout petit peu. Enfin, voilà. C'est compliqué, mais ça vaut le coup. Mistinguette.
De tout en terre, on est plein d'eau, il faut que ça sorte. Je suis la gentillesse sans dire un mot, que je supporte. Je sais bien, c'est idiot de me rebiffer, j'en conviens. C'est pas ça qui me fera bouffer, ça ne fait rien. Je sens que ça finit par m'étouffer. J'ai fait tout ce que j'ai pu, à la fin j'en peux plus. Toujours au sur 20, du soir au matin, moi j'en ai marre. Vivre nuit et jour, sans un peu d'amour, moi j'en ai marre. Se dire pour ma peine, la traîne fourvue, jusqu'à ce que je crève, sans rêve, sans but. N'avoir pour toilette que celle que l'on jette, moi j'en ai marre. N'avoir pour tropneau que ceux qui prennent l'eau, moi j'en ai marre. Si c'est ça la vie, eh bien, je vous le déclare, sans être socialo, c'est pas rigolo, et moi j'en ai marre. Ne croyez surtout pas que j'en vis ceux qui sont riches. Les bisous, les hommes ont la grande vie, moi je m'en fiche. Mais enfin, tout est bien mal balancé, et c'est sain, à quoi donc il a pensé, quand certains en ont trop et d'autres pas assez. Au fond, c'est ça qui fait, souvent qu'on devient mauvais. Toujours sur 20, du soir au matin, moi j'en ai marre. Vivre nuit et jour sans un peu d'amour, moi j'en ai marre. En fait de tendresse, caresse, je n'ai rien que celle que si bonne me donne mon chien.
Ah, Radio Libertaire 89.4, et bien ah, le disque a un tout petit souci, donc je te rends la parole.
Ah, le disque a vraiment un souci. Bon, de toute façon, c'était un petit peu compliqué hein, d'écouter ça jusqu'à la fin, mais c'était pour le plaisir d'écouter Mistinguette. On l'a entendu tout à l'heure, Georges Brassens à l'antenne avec La Mauvaise Herbe. Georges Brassens qui signait Géo Cédille dans Le Libertaire d'octobre 1946 et qui se demandait si Aragon avait cambriolé l'église de Bon Secours. Eh oui, c'est arrivé à Rouen où, plus précisément à Blaneville-Bon Secours, petite commune des environs de Rouen. Trouvant que les calices en or et en argent massif, ainsi que les colliers de pierres précieuses, n'était pas nécessaire à la pratique du culte de la religion de Jésus-Christ, lequel, comme chacun sait, préconisait la pauvreté, des inconnus se sont amusés à fracturer les portes de la basilique de Bon Secours et à rafler les susdits précieux objets. Jusque-là, rien d'extraordinaire, rien d'alarmant. Des individus s'aperçoivent que dans une église dorment inutiles des valeurs susceptibles de leur accorder le pouvoir d'achat qui leur fait défaut. Ils s'en emparent, c'est normal, c'est légitime. Il faudrait être détraqué pour trouver à redire à cela. Mais où l'affaire se corse, c'est lorsque des policiers amateurs, il y en a plus qu'on ne pense, s'avisent d'établir une corrélation entre ce vol et celui commis en 1927 par le poète Louis Aragon au préjudice de l'église de Melun et de signaler ce dernier à l'attention des enquêteurs. Grossière, fâcheuse méprise à la vérité. Aragon est absolument incapable d'accomplir aujourd'hui un acte aussi noble, aussi grand, entièrement soumis à la force capitaliste. Il ne voudrait pour rien au monde la frustrer du moindre centime. Et d'ailleurs, lui, quand il volait, ce n'était pas dans un dessein de lucre. Il volait pour voler, tout simplement. C'était du bolirisme, nous en convenons. Mais de là à oser lui faire endosser l'honneur de la paternité du cambriolage glorieux de la basilique de Bon Secours, il y a du chemin. C'est à notre avis pousser un peu loin l'inconscience. Aragon n'a pas besoin de voler pour se procurer des subsides, il lui suffit de se baisser aux pieds de ses maîtres, c'est plus facile et moins dangereux. Nathalie Solence.
J'étais chez moi, j'y ai poussé au fil des mois. En aigrette dans mes chansons, comme on apprendrait ses leçons. À force d'y passer mes jours, j'y ai rencontré mes amours. Ça tient si chaud, ces moments-là. On n'oublie pas, on n'oublie pas. Comment te dire, les chevals d'or et les écluses, les contrescarpes et les colombes, je les connais comme un enfant qu'on a écouté tant et tant. Les ai reçus en héritage, mais tu comprends, j'avais pas la. Mais pas, j'y étais pas. Comment te dire, depuis qu'ils ont fermé boutique, les temps des cerises, les magiques, les maisons bleues, les limonaires, les loups du faubourg, les tanières. Orphelin de sang devenu, et un jour au hasard des rues, j'hésiterai, était-ce là? Peut-être pas, peut-être pas. Comment te dire, une chanson, c'est pas grand-chose. C'est comme une fleur qu'on arrose. Il faut bien lui ouvrir la porte, sinon c'est une chanson morte. Mais qu'on l'enferme ou qu'on l'exile, qu'on la chasse des centres-villes, promène-toi, tu l'entendras. Continuez de ne rien faire, messieurs bailleurs propriétaires, jamais vous ne nous ferez taire. Alors messieurs de la finance, qui ne pensez qu'à la croissance, continuez vos indécences.
Radio Libertaire 89.4, vous écoutez le tour du monde libertaire et on vient d'écouter Nathalie Solens avec Comment te dire, tiré de son nouvel album éponyme qui est en vente un peu partout et notamment à Publico, bien entendu. Nathalie Solens donc. 1er octobre, numéro 1, octobre 1954, numéro 1 du monde libertaire, le monde libertaire paraît. Notre journal, votre journal, disait l'édito, est le fruit de l'effort commun consenti par les libertaires de toutes écoles unies dans la Fédération anarchiste. Tout naturellement, il prendra la suite du vieux journal créé par Sébastien Faure et par Louise Michel, qui pendant 50 ans fut le refuge des hommes libres. Pourquoi le monde libertaire ? Parce qu'aujourd'hui, sous les assauts de la connaissance, le monde s'est rétréci. Les problèmes que se posent aux hommes, qui se posent aux hommes, se sont interpénétrés. Les frontières géographiques, économiques, linguistiques même, ne possèdent plus d'autre importance que celle que leur accordent les fauteurs de guerre, les exploiteurs de la crédulité publique, les bénéficiaires de systèmes économiques périmés. Notre journal sera le journal de tous les libertaires, mais il accueillera également les hommes épris de progrès social, aux compétences indiscutables, qui trouveront auprès de nous une place qu'on leur limite trop souvent ailleurs. Notre journal sera moderne par sa présentation comme par son contenu. Ses rubriques multiples traiteront de toutes les activités qui intéressent l'homme. Élément de transformation. Pardon, décidément, j'ai vraiment une meute de chats dans la gorge ce soir. Traiteront de toutes les activités qui intéressent l'homme, éléments de transformation d'une société bâtarde que seule l'autorité qui engendre la crainte maintient. Il œuvrera pour parfaire la culture de l'homme, élément essentiel des constructions futures. À l'aurore du siècle, la route qui mène à notre idéal semblait large et facile. Les hommes enthousiastes s'engageaient hardiment sur la trace de nos anciens. 50 années de batailles, de défaites entremêlées de victoires nous font mesurer plus justement aujourd'hui le chemin qu'il reste à parcourir. Il faut armer l'homme, il faut l'associer au sein d'une organisation qui soit l'outil de l'homme et non pas son maître. Il faut l'aider à accomplir une révolution qui dépasse les phases pour s'inscrire dans les faits. Cela sera la tâche de votre monde libertaire. Nous n'ignorons aucune des difficultés qui se dressent devant une presse indépendante, des pouvoirs publics et des puissances d'argent. Nous sommes persuadés que votre appui nous permettra de les surmonter. Le monde libertaire vient de naître. Son sort est entre vos mains. Son rayonnement dépend de vous. Et en faisant le grand journal que les hommes libres attendent, vous aurez accompli un pas décisif vers la transformation intellectuelle et sociale qui s'impose. Voilà, c'était le premier éditorial du tout premier monde libertaire. Pascal Loquin vient de sortir un disque et nous allons en écouter un extrait, une chanson intitulée « Des jours comme ça ». Son disque aussi est en vente à Publico, bien sûr.
Il fait bon, le ciel est bleu, le vent chante dans les feuilles. Il fait beau, c'est formidable, c'est l'amour que l'on cueille. Le printemps fait le poirier, mais il ne faut pas s'y fier. J'entends la vie qui va, c'est étrange comme elle va fort. Il y a des jours comme ça où le printemps a des mains d'or. L'amour se fend la poire, il est parti quelque part. Le vent s'est trompé de chemin, il n'a plus le temps, il n'est plus dans le bottin. Alors le temps a pris un vent, l'amour est tombé dans les pommes, le printemps fait un petit somme. Le ciel est bleu, c'est formidable, les oiseaux chantent dans le ciel, l'amour marche sur le sable, le printemps donne du miel. La vie fait son chemin, seul ou avec quelqu'un, le vent a fait son temps.
Le tour du monde libertaire continue sa promenade dans l'histoire du monde libertaire. Une histoire résumée dans ce numéro de septembre 2021. Il était une fois le monde libertaire. Et on pouvait lire dans ce premier numéro d'octobre 1954, un article intitulé, un article signé Alexandre Duchesne, intitulé « Aux travailleurs de la terre ». Donc nous sommes en 54. Les travailleurs de la terre sont actuellement les plus défavorisés du point de vue salaire. Et il existe des différences extraordinaires entre les travailleurs agricoles suivant qu'ils résident dans une région ou dans une autre. Dans beaucoup de régions, les propriétaires terriens se considèrent encore comme de petits seigneurs. Des ouvriers agricoles couchent encore dans les écuries, sont payés à la journée et ne bénéficient d'aucun congé payé, bien que l'État ait fait une loi à ce sujet. D'un autre côté, le dégoût de la terre atteint même ce que nous pouvons appeler l'artisan agricole, c'est-à-dire le petit fermier travaillant seul et qui doit succomber devant les gros propriétaires terriens qui emploient un matériel moderne au détriment du salaire de leurs ouvriers agricoles. Dans ce régime de profit, seul l'argent est roi et le modernisme en matière agricole comme en matière industrielle s'emploie sur le dos des travailleurs. Les camarades anarchistes ont bien tenté de créer des communautés agricoles, mais ils se heurtent à la fois à la rapacité des gros propriétaires terriens, à l'incompréhension de l'artisanat agricole et à l'ignorance de la grosse majorité des travailleurs agricoles désarmés. Les travailleurs des villes, eux aussi, sont pour quelque chose. Ils n'ont pour ainsi dire aucun lien avec les travailleurs de la terre sur le plan syndical. Et les partis politiques de gauche prônent le système de propriété et de profit dans le seul but de gagner des voix dans les foires électorales auprès des paysans comme ils emploient ce système auprès des commerçants. Le travailleur de la terre, les travailleurs de la terre doivent s'unir aux autres travailleurs pour mettre fin à l'exploitation du patronat. L'anarchisme est le climat rêvé pour créer cette communauté de vues. Et dans le même numéro, Paul Moget signait « Prolétaire, mon frère ». Tout le monde a besoin de toi, prolétaire. Le capitaliste pour ton travail, l'armée pour faire la guerre, les religions pour te domestiquer et t'offrir, châtrer aux deux autres. Veux-tu que nous voyons ensemble ceux qui t'exploitent ? Le capitalisme parasitaire a accrédité dans ton cerveau qu'il faut des riches pour que les pauvres puissent travailler. C'est un monstrueux escamotage. La richesse n'existe que parce qu'il y a le travail. La mise en valeur a toujours précédé la valeur elle-même. L'adage du riche est la justification de son vol, et tu ne peux entériner ce vol et le parasitisme qui s'ensuit. Tu es propriétaire intégral de toutes les richesses et l'usufruitier partiel de leur mise en valeur. Toute autre acception est une tromperie. Ton mot d'ordre est « À mort le capitalisme ». À 20 ans, une marâtre, la patrie, par ses mercenaires, te déguisent en soldat, ont inventé la supériorité de Français, d'Allemands, d'Anglais, de Russes, suivant le hasard de ta naissance et ton éducation. Les autres, tous des sauvages, champs guerriers à la bouche, bien en rang, pardon, au pas derrière des oriflammes, tu pars joyeusement vers les abattoirs. Si tu meurs, tu auras des discours hypocrites, des larmes de crocodile. Si tu reviens, on t'offrira des amulettes, des hochets accompagnés de roulements de tambour. Si tu es estropié, on commencera à te regarder de travers. C'est que ta présence même est une protestation contre la guerre. Ta patrie trouve que tu lui coûtes cher. trop cher, toi qui n'as pas su mourir pour elle. Contre le sophisme de la guerre inévitable, contre le racisme, dresse-toi, prolétaire mon frère, à mort le militarisme. Dès ton plus jeune âge, des pieuvres ondoyantes, les religions te guettent. Au berceau, elles te font déjà esclave. Pendant ta vie, elles te prêchent la résignation devant la misère. Elles essaient de t'amadouer par la promesse d'un paradis auquel leurs turiféraires se gardent bien de croire eux-mêmes. En réalité, par la menace, par la contrainte, par la sophistication, elle te livre pieds et poings liés aux vautours du coffre-fort et aux soudards. Elle te prépare au sacrifice infâme de ta vie pour vivre dans l'opulence, accoquinée aux brutales soldatesques et aux requins de la finance. À mort les religions ! Échapotant ce sinistre trio, l'État, créé par les politiciens, te saigne à blanc de ta naissance à ta mort. Bien mieux, tes descendants continueront à payer, à trimer et à mourir pour les mêmes causes. Toujours trompé, toujours cocufié, prolétaire, mon frère, vas-tu encore longtemps te laisser berner par ces aigrefins de la politique, ces flibustiers du suffrage universel ? Déjà, passivement, il est vrai, par tes abstentions massives, tu manifestes ton mécontentement à tous les forbans. Continue, prolétaire, mon frère, car c'est toi la force, c'est toi qui produis. Prends conscience de ta valeur, viens rejoindre les rangs des anarchistes et avec eux, mène le combat, l'implacable lutte qui doit faire de toi le maître dans la justice, dans la raison et dans la liberté. Que ton cœur généreux qui s'enflamme souvent pour de faux idéaux, rejetant enfin tous les faux prophètes, s'illumine de la grandeur de l'idéal humain pour la construction du bonheur commun avec tous les hommes de bonne volonté.
Des vins nouveaux. Paysans, dont la simple histoire chante dans nos cœurs et nos cerveaux l'exquise douceur de la gloire et la bonté des vins nouveaux. Allons nous, esclaves placides, dans un sillon où le sang luit, rester à piétiner au bruit des Marseillaises fratricides. En route, allons les gars, jetons sabots, marchons, marchons en des sillons plus larges et plus beaux. À la clarté des soirs sans voile, regardons en face les cieux, cimetières fleuris d'étoiles où nous enterrerons les dieux. À la clarté des soirs sans voile, regardons en face les cieux, cimetières fleuris d'étoiles où nous enterrerons les dieux. Car il faudra qu'on les enterre, ces dieux féroces et maudits, qui sous espoir de paradis, firent de l'enfer sur la terre.
Imbe befum narenda, nanjaha toodi. Nawela wela nifuf, imbe befum nanjaha, emin jaha elawol. Yodi yoda nifuf, emin nenda, bernede.
Ne déversons plus l'anathème en gestes grotesques et fous sur tous ceux qui disent je t'aime dans un autre patois que nous. Ne déversons plus l'anathème en gestes grotesques et fous sur
choses qui disent je t'aime dans un autre patois que nous.
Et méprisons la gloire immonde, tes héros couverts de laurier, ces assassins, ces flibustiers qui terrorisèrent le monde.
بروح شویم بیایید یاران در افکنیم کفش های کهنه من را همراه شویم همراه در کوره راه های گسترده تر و زیبا
آهوت الو لگرش تون دو بیو سبا مرشو مرشو آل سیون پلو لرژه پلو بو
پلو دو مورال هیپوکریت Dans les barrières chaque jour, dans les sentiers des marguerites, arrête les pas de l'amour. Plus de morales hypocrites, dans les barrières chaque jour, dans les sentiers des marguerites, arrête les pas de l'amour. Et que la fille mère quitte ce maintien de honte et de deuil, pour étaler avec orgueil son ventre où l'avenir palpite.
Alu andu ravinaya tsbit alura mandia mandia
linanza ahdiyatana alqadima namshi namshi ila ajmal alafaq
Soignons nos souches, que l'or nourricier du soleil emplisse pour toutes nos bouches les biblons, le raisin vermeil.
Semons nos blés, soignons nos souches, que l'or nourricier du soleil emplisse pour toutes nos bouches les biblons, le raisin vermeil.
Et seule guerre nécessaire, faisons la guerre au capital, puisque son or au soleil du mal ne fait germer que la misère.
En route, allons les gars, jetons nos vieux sabots, marchons, marchons, en décillons plus larges et plus beaux.
Radio Libertaire 89.4, vous écoutez le tour du monde libertaire.
Le drapeau, les sons cuivrés, l'acier flamboie, martelant le sol de pas sourds, drapé dans l'étendard de soie, le régiment passe. Tambour sous la grêle des coups sonores, rythme la marche des soldats. Eux, transpirant par tous les pores, battent le vide de leur bras gauche. Devant eux, sur la plaine poudreuse, la route s'étend. L'air est lourd et sans une haleine. Et, comme un grand monstre haletant, dont chaque homme est une vertèbre, la troupe avance lourdement. Honneur, gloire, mots qu'on célèbre, faut-il qu'un dernier ossement de son débris couvre la terre pour qu'il soit enfin satisfait. Pourtant, nous connaissons la guerre, avec sa suite et ses bienfaits. Quand ces moissons de croix peuplent encore la plaine, avons-nous oublié déjà son âcre haleine? N'avons-nous vu sombrer le monde en un malheur sans nom? N'avons-nous vu, montant jusqu'au ciel fauve, le meurtre autorisé poussait ses cris de fauve et des hommes mourir pour ce qu'on nomme honneur. Du silence et des bruits, la vie au bord du gouffre, un coup sourd retentit, puis une odeur de soufre emplit l'air, les soldats se masquent de groins, presque enterrés vivants dans le fond de leur fosse, tremblants, puant la peur, ils se terrent, s'adosent à l'argile morveuse où se mouchent leurs mains. Comme une pieuvre hideuse et qui bave de l'encre, le nuage de gaz se déchire, s'échancre, monte en tourbillon noir en toussant de la mort. Quand s'effacent enfin les vapeurs meurtrières, les hommes, retirant leurs cagoules guerrières, laissent pleurer leurs yeux rouges, saignant encore. Une minute passe à la mort arrachée. Puis un long sifflement sillonne la tranchée, l'attaque. Un flot crotteux passe le parapet, baïonnette au canon, sans un mot, hors d'haleine. Sous de peur, lourd debout et grimaçant de haine. Par le champ de bataille ébranlé du hoquet sur du canon, ils vont comme des bêtes, foulant des corps humains sous leurs pieds. Et des têtes où la mort a surpris un dernier cri d'horreur. Ils vont. À leurs fusils, leurs pommes se cramponnent nerveusement. Ils vont. Le silence bourdonne. Leur souffle devient court de fatigue et de peur. Ils vont toujours. La tranchée est tout proche. Dans un dernier effort, ils entendent l'approche. Un bruit sec et précis crépite en détonnant, couchant comme un blé mûr cette moisson humaine dans le sang et la boue. Un homme qui se traîne, bavant rouge, éperdu, hurle un cri bouillonnant, puis s'affale soudain face à la terre grasse. Les autres vont. Dans un galop, un soldat passe sur lui. Un heurt va de la terre jusqu'aux yeux. Le sol est secoué d'un rythme de démence. Et le choc des obus qui rêlent en cadence, dans un viol fécond, le labour en tout lieu. Les soldats fous s'enfuient, parfois pris de vertige. L'un d'eux touché chancelle et sa face se fige de l'éternel repos qu'il arrache à l'enfer. Mais le canon toujours cogne, pilonne et broie, défigure les traits, déchire chaque proie et calabousse la chair de ses débris de fer. Les hommes, rebroussant chemin, pris de panique, reniflant, dans l'ardeur de ces champs volcaniques, derrière, à droite, à gauche et devant eux, la mort. Les fils de barbelés qui se traînent, se glissent, drapés de corps humains qui lentement pourrissent. Les trous comblés de chair et de sang jusqu'au bord. La plaine échevelée et que la mort habille. Et l'horrible senteur de la chair qui grésille. Et les affres, les cris, les râles de douleur et les canons crachant la mort à pleine gueule et les ventres humains dont les tripes dégueulent. Est-ce cela la gloire? Est-ce cela l'honneur?
Il fallait la voix de Maurice Lézan, notre vieux compagnon né le 11 mars 1909 à Paris, où il est mort le 29 septembre 1991, pour aborder ce numéro 1843 du mois d'octobre 2022 et intitulé « Abat toutes les armées ». Lors de notre dernière émission, Bernard, alors encore en charge du Monde Libertaire, nous disait qu'il manquait de crayons. Mais le ML en a de célèbres, puisque les unes du numéro dont je viens de vous parler tout à l'heure, consacrée au Monde Libertaire, et la une de ce numéro dont je vais vous parler, « Abat toutes les armées », les unes sont signées Jacques Tardy, excusez du peu. Quand même, hein. Alors dans ce monde libertaire antimilitariste, on pouvait lire un article de Jean-Marc Reynaud qui se posait la question de l'antimilitarisme, du pacifisme et de la révolution. Être antimilitariste n'est pas toujours simple. Être antimilitariste et pacifiste l'est encore moins, et quant à être antimilitariste, pacifiste et révolutionnaire, c'est carrément compliqué. Essayons néanmoins de défricher le terrain d'une problématique complexe. Antimilitariste. L'armée étant ce qu'elle a toujours été et sera toujours, c'est-à-dire un outil au service des pouvoirs politiques, économiques, financiers, religieux, une école du crime et de l'obéissance aveugle aux ordres imbéciles, d'une hiérarchie également aux ordres, une baïonnette avec un prolétaire à chaque bout, une université de la culture intensive des plus bas instincts de l'animal humain, un instrument de répression avec sa cousine la police, des mouvements sociaux et des libertés de toutes sortes. La mère de toutes les guerres, il est relativement simple et de bon sens d'être antimilitariste en pensée. Car en acte, être antimilitariste, c'est en effet également refuser de partir à la guerre, de faire le service militaire, de participer aux cérémonies guerrières de toutes sortes, d'accepter les logiques d'ordre et d'obéissance inhérentes aux innombrables institutions des non moins innombrables hiérarchies sociales. C'est non seulement refuser d'obéir, mais également de commander. C'est refuser de travailler dans ou pour les usines d'armement. C'est déduire de ses impôts la part consacrée à l'armée. Cela fut fait au moment de la lutte contre l'extension du camp militaire du Larzac. Bref, être antimilitariste implique d'être un minimum cohérent et de joindre autant que faire se peut les actes à la parole. Ah, bon. Antimilitariste et pacifiste maintenant. Alors logiquement, l'antimilitarisme se conjugue au même temps que le pacifisme. Le pacifisme, en effet, est contre la guerre, et donc contre l'armée très souvent, et il est en plus non-violent. Tout cela semble relever de l'évidence, mais qu'est-ce qu'on fait quand, comme en Espagne en 1936, un général fasciste fait un coup d'état militaire? On se défend ou on se défend pas? On va à la rencontre des factieux avec des fleurs ou avec des armes? Et quand, toujours comme en Espagne, on en a guerre et que Staline seul en propose contre l'or de la Banque d'Espagne, sous condition de militarisation, sous contrôle stalinien, de la résistance au fascisme, on fait quoi? Ce sont des questions qu'il faut se poser avant qu'elles ne se posent et qu'elles s'imposent. Lors de la guerre de classe, c'est a priori légèrement différent, et être antimilitariste et pacifiste, voire non-violent, est à l'évidence plus plausible. Enfin, pas toujours, car quand l'armée ou la police tire sur la foule, si ça renforce le sentiment antimilitariste, ça titille sévère le pacifisme et la non-violence. Alors, antimilitariste, pacifiste et révolutionnaire, si pour faire évoluer significativement la société vers non pas un peu, mais beaucoup de progrès social, il suffisait de voter pour certains, de faire de grandes manifs pacifiques, de négocier autre chose que des miettes de réforme avec le patronat et le pouvoir, de refuser de faire la guerre et de la financer par notre travail et nos sous, ça se saurait. Or, incroyable, les exploiteurs et les oppresseurs en tout genre renaclent toujours à se laisser déposséder de leurs biens et de leurs pouvoirs. C'est comme ça, ça a toujours été comme ça, et ce sera toujours comme ça. Devant ces évidences, certains, et parmi eux les anarchistes, estiment que seul un processus révolutionnaire est à même de faire avancer significativement les choses. Mais c'est quoi un processus révolutionnaire, si ce n'est au départ une révolte soudaine? Pourquoi celle-là et pas celle d'avant, mettant le feu à la savane et détruisant tout sur son passage? Et c'est comme ça. Confronté à la résistance des maîtres du monde, ça fait rarement dans la dentelle. C'est juste logique. La logique de toute guerre civile qui, parce que c'est une lutte à mort, ne laisse souvent pas d'autre choix à la révolte que les armes de l'adversaire, à savoir la concentration monopolistique du pouvoir et la militarisation de la lutte, et donc retour à la case départ, comme en 1789 en France, en 1917 en Russie, en 1936 en Espagne, et je ne sais plus quand, en Chine, à Cuba, au Vietnam, au Nicaragua, voire pire. On l'aura compris, être antimilitariste, pacifiste et révolutionnaire, c'est non seulement compliqué, mais ça semble du genre désespérant. Alors on laisse tomber? On se contente d'être un antimilitariste à la mode café du commerce, un pacifiste de week-end et un révolutionnaire de salon en peau de lapin? Si on pense que l'antimilitarisme, le pacifisme et la révolution vont soudainement tomber du ciel et s'imposer comme évidence dans le conscient et l'inconscient des populations grâce à l'action résolue de quelques milliers de militants et de militantes qui plus est embourbés dans des querelles de sacristie, là c'est clair, il faut mettre les pouces. Si par contre on pense que l'avènement de l'antimilitarisme, du pacifisme et d'une révolution digne de ce nom, ça se prépare et ça s'inscrit dans un temps long, alors il faut continuer et continuer encore notre combat, en unissant nos faibles forces, en étant créatifs, malins, organisés, persévérants, tenaces, en avançant toujours, même de peu, sans jamais reculer sur l'objectif final. Le camarade Élisée Reclus avait déjà compris cela quand il expliquait que l'évolution et la révolution n'étaient pas obligatoirement antinomiques et pouvaient être complémentaires, à l'instar de ce qu'il en fut du syndicalisme révolutionnaire. Ce que n'avait pas prévu Reclus, c'est qu'avec la crise écologique qui s'est enclenchée via le capitalisme, privé ou d'État, le pillage des ressources non renouvelables, l'empoisonnement de l'air, de l'eau, de la terre, un productivisme échevelé, une croissance économique démographique sans fin dans un monde fini, une surconsommation de l'inutile, une marchandisation des choses et de la vie, nous en arriverions au stade d'une menace sur les conditions mêmes de la vie humaine sur cette planète et même les conditions de la vie tout court sur cette planète, et que désormais, vu l'urgence de la situation, le temps allait nous être compté. Soyons optimistes, ça motive pour que notre combat pour une société de liberté, d'égalité et d'entraide, c'est-à-dire pour la vie, ne se réduise pas à un combat pour la survie. Nous avons écouté tout à l'heure la paysanne qui était interprétée par Adeline Guéret et Marie Mazille, un texte de Gaston Couté. On écoute maintenant, toujours du même auteur, Gaston Couté, Rémo Gary, la chanson des fusils.
Nous étions fiers d'avoir 20 ans pour offrir aux glèbes augustes la foi de nos cœurs éclatants et l'ardeur de nos bras robustes. Mais voilà qu'on nous fait quitter notre clair sillon de bonté pour nous mettre en ces enclos ternes que l'on appelle les casernes. En nos mains de semeurs de blé dont on voyait hier voler les gestes d'amour sur la plaine, en nos mains de semeurs de blé. On a mis des outils de haine aux fusils qu'on nous mit en main. Fusils qui tuerez-vous demain. Notre front qui ne s'est baissé encore que par devant le terre bouge en sentant sur lui peser la discipline militaire. Mais s'il bouge trop notre front, combien d'entre nous tomberont par un matin de fusillade sous les balles des camarades? Nos yeux regardent sans courroux les gars dont les tendresses neuves s'essaiment en guerre rendez-vous là-bas sur l'autre bord du fleuve. Mais un jour de soleil sanglant, à combien de pauvres galants, ayant un cœur pareil au nôtre, coucherons-nous dans les épôtres? Nous trinquons dans les vieux faubourgs avec nos frères des usines, mais si la grève éclate un jour, il faudra qu'on les assassine. Hélas, combien les travailleurs auront-ils à compter des leurs sur les pavés rougis des villes après nos charges imbéciles? Mais en nos âmes de 20 ans gronde une révolte unanime. Nous ne voulons pas plus longtemps être des tâcherons du crime. Pourtant, s'il faut encore avant de jeter nos armes au vent, lâcher leurs décharges terribles, nous avons fait choix de nos cibles. En nos mains de semeurs de blé dont on voyait hier voler les gestes d'amour sur la plaine, en nos mains de semeurs de blé.
puisqu'on vous tient, fusil de haine, tuez s'il faut tuer demain. Ceux qui vous ont mis en nos mains.
Radio Libertaire 89.4, vous êtes à l'écoute du Tour du Monde Libertaire. On évoque aujourd'hui les numéros passés, puisque le Monde Libertaire spécial été n'est pas encore sorti, va bientôt sortir, il sortira... Dans 15 jours peut-être à peu près. Voilà, et en attendant, on profite de cette émission pour regarder un petit peu dans le rétroviseur. Et là, je m'étais arrêté sur ce numéro antimilitariste d'octobre 2022, avec cet article signé Bernard, « Armée, bourreau des peuples », avec cette citation d'Eugène Bizot. Au lieu de prendre part à la cérémonie où l'on glorifiera les morts au champ d'honneur, nous resterons ici, l'âme meurtrie, en maudissant la guerre et son immense horreur. C'était évident, le 11 novembre 1918, on venait de mettre fin à la dernière boucherie. L'humanité avait eu son lot de gueules cassées, de viols, de pillages, de massacres, de souffrances et d'obéissances bestiales. Place aux monuments, aux morts, aux bons morts, morts pour la France. Parce que dans une guerre, il y a des bons morts et puis des morts qui ne comptent pas, où sont gravés les noms des victimes civiles, par exemple, où sont-elles ? Et il y a les morts pas bons, les qu'on ne glorifiera pas, les... sur qui il faut jeter l'anathème, tous ces pauvres bougres assassinés par l'injustice militaire. Mort par la France, Gabrielli, l'idiot du village qui ne parlait que le corse et ne comprit pas les ordres, assassiné par balle pour abandon de poste devant l'ennemi. Blessé, il était parti se faire soigner pendant que sa compagnie se faisait décimer. Brunel, cité à l'ordre du corps d'armée pour son obéissance, mais tiré au sort suite aux mutineries de 1917, assassiné par balle. Leymarie, cultivateur dans la vie, libre, condamné à mort par le conseil de guerre spécial pour mutilation volontaire, alors qu'il avait été blessé à la main à son poste de guet, assassiné par balle. Chapelan, accusé de s'être rendu volontairement, blessé à la jambe, il ne peut faire face au peloton d'assassinat. La cruauté militaire ne manque pas de ressources. On dresse contre le poteau le brancard sur lequel il est ficelé pour lui éviter de glisser. Assassiné par balle. Berceau, qui refuse le pantalon souillé pris sur un mort, ce qui se traduit par « refus d'obéissance en présence de l'ennemi ». Assassiné par balle. 5 cas pris parmi les 1657 exécutions reconnues. Certains historiens parlent plutôt de 2500. Le point commun entre tous ces crimes contre l'humanité, la présence sur place d'uniformes bénis par des soutanes, dirigées par des écharpes patriotiques pour le profit de costards-cravates. Haïssable, les militaires versaillais qui réprimèrent dans un bain de sang les espoirs de la commune. Détestable, l'armée rouge qui écrasa les rêves de Kronstadt et l'expérience libertaire en Ukraine. Exécrable, les soudards franquistes ou staliniens qui étouffèrent la révolution espagnole. Méprisable, les soldats soviétiques à Budapest en 56, à Prague en 68. Quelques crimes de l'armée française. 13 septembre 1930, 5 à 6 000 Vietnamiens affamés organisent une marche à Vienne pour demander une baisse des impôts. Devant leur refus de faire demi-tour, l'aviation française bombarde la colonne de marcheurs. Il y eut 156 morts. Vive la France ! 25 juillet 1943, émeute à Philippeville, en Algérie. La répression qui s'ensuit, exécutée par des tirailleurs sénégalais, fait une trentaine de morts. Vive la France. 30 janvier 1944, soulèvement à Fès. Les tirailleurs sénégalais sont encore une fois chargés des sales besognes. Une soixantaine de morts et des milliers d'arrestations. 8 mai 1945, manifestation à Sétif et à Constantine. Un Algérien est tué à Sétif, 4 autres à Constantine. Ces crimes déclenchent l'insurrection. La répression qui suit fait environ 40 000 victimes. 30 mars 1947, insurrection à Madagascar. Après l'attaque d'un camp militaire français par des indépendantistes, la répression qui suit fait environ 2000 morts. Liste non exhaustive. Sans parler des nombreuses guerres survenues depuis la der des der. Militaires de tous les pays, désarmez-vous. Le militarisme est né du jour où quelques-uns prirent pour eux ce qui appartenait à tous et résolurent de le conserver même par la force. Le militarisme est né du jour où quelques hommes voulurent imposer à tous leur volonté. L'autorité ne peut rester debout sans le militarisme, sans les moyens de se maintenir par la force contre quiconque s'oppose à elle. On veut faire de vous des machines à tuer, révoltez-vous, et que tremblent enfin ceux qui osent vous armer contre vos frères, car votre ennemi, c'est seulement celui qui vous exploite, vous opprime, vous commande et vous trompe, disait Georges Yvetot. Pour notre émancipation, luttons pour la démilitarisation de la société. Pas un sou, pas une seconde, pas une arme, pas une larme pour l'armée. Refusons les usines d'armement, ne soyons pas les bâtisseurs de notre propre asservissement. Et refusons le SNU. Préparer la guerre sous prétexte de servir la cause de la paix, c'est cultiver le meurtre, c'est cultiver les mauvais instincts qui abrutissent l'homme, c'est maintenir l'individu dans l'état de servitude. Le rôle social imparti aux soldats est la servitude, disait Georges Clemenceau. Il n'y a pas de tyran sans esclave. Là où nul n'obéit, personne ne commande. À l'heure où des abrutis créationnistes remettent en question l'évolution, faisons confiance à Darwin. L'homme descend du singe, non du chien. Et on n'a jamais vu un singe lécher la main de son maître.
Entre deux guerres, que faire quand le deuil a fait son temps? Entre deux guerres, que faire entre nous pour passer le temps? On se raconte la dernière, les grands exploits militaires, le jour du débarquement, le soulèvement populaire et la fibre cocardière, on est tous des résistants. On fête les anniversaires de ces boucheries sanguinaires et la victoire en chantant. On regarde dans le sperme les tibias de nos grands-pères qui sont morts en combattant. Entre deux guerres, que faire entre nous pour passer le temps? Entre deux guerres, que faire? L'amour, mais c'est épuisant. Aller cueillir des primes vertes, tendre la joue à son frère, ce n'est pas très excitant. Et les aides humanitaires pour soulager la misère, c'est beau mais pas très marrant. Pour se distraire, on préfère plutôt qu'un documentaire et plein de bons sentiments. Une belle histoire de gangsters ou de vampires mortifères, noyés de larmes et de sang. Entre deux guerres, que faire? Entre deux pour tuer le temps. Entre deux guerres, que faire? On passe les heures en se tapant. Une petite bière légère. Entre deux bières, que faire? On se massacre au poker ou bien entre supporters. On est toujours les gagnants. On crève de rage quand on perd. On lance les canettes de bière, on en siffle une en passant. On se tue pour sa carrière. On démolit son confrère pour avoir de l'avancement. On saute sur la secrétaire, à l'endroit, à l'envers. On est toujours partant. À l'amour comme à la guerre. Mais on s'attrape, on se prend, on écrase son partenaire jusqu'à ce qu'il soit suffocant. On enterre la rage de guerre, on rend les armes, on espère, et comme pour bien des amants. Y a pas que des hommes à la guerre, y a des femmes tensionnaires qui aiment leurs chiens, leurs enfants. Entre deux guerres, que faire? On surfe sur l'air du temps. Entre deux guerres, que faire? On récupère, on attend. On entretient les cimetières, on achète un revolver que l'on astique en rêvant. Et quand il y a du gloss dans l'air, non, on va pas se laisser faire, on va leur rentrer dedans. Tant pis si ça doit faire quelque effet secondaire, on fera proprement. Une guerre éclair salutaire, promis ce sera la dernière de tous les temps. Entre deux guerres, que faire?
Marc Havet, entre deux guerres. Après une longue lutte pour transformer puis boycotter le service militaire, celui-ci fut enfin suspendu sous le gouvernement Jacques Chirac en 1997. Nous pensions donc nous en être débarrassés pour toujours. C'était mal connaître l'esprit retors des cocardiers de tous bords. 20 ans plus tard, l'État réagitait le chiffon bleu-blanc-rouge cocardier à la face des jeunes par le biais du SNU, le Service National Universel, qui, à l'origine, ne devait être qu'une expérience, initiative lancée par Édouard Philippe et le ministère de l'Éducation en 2019, mais qui indirectement succédait au service militaire en France, sous-entendu pour redonner le goût de l'ordre et de la discipline à une jeunesse indisciplinée. Mais le SNU, qui a vite été généralisé à tous les départements à partir de 2020, devrait être, alors l'article à l'époque, donc octobre 2022, sera rendu obligatoire. Là, on pourrait dire aujourd'hui, devrait être rendu obligatoire. On sent quand même que ça mouille un peu et qu'il y a du mou dans les bras. Donc, il faut continuer à pousser, hein, les camarades. Donc voilà, il sera peut-être rendu obligatoire à l'ensemble des jeunes filles et garçons de 16 ans, de façon progressive. Et donc c'était prévu à l'horizon 22-23, et ben on y est. Et oui, 16 ans, c'est l'âge tendre. Et ce n'est pas un hasard pour les militaires. 16 ans, c'est l'âge idéal pour vendre aux jeunes des vessies pour des lanternes. Pour s'en convaincre, il suffit de jeter un œil sur le site du CRIJ, le Centre Régional d'Information Jeunesse, et son argumentaire en 5 points qui pue l'intox et la démagogie. Le SNU, une nouvelle opportunité. Et oui, premièrement, ça permet de rencontrer des jeunes et créer de nouveaux liens. Bon. Deuxièmement, l'opportunité de vivre une nouvelle expérience et d'enrichir sa culture personnelle. Ah, tous ceux qui ont fait l'armée se souviennent de cette opportunité, cette merveilleuse expérience et cet enrichissement de la culture personnelle. Troisièmement, il fallait s'y attendre, c'est favoriser son orientation et son insertion dans le monde professionnel. Autrement dit, goûter aux joies des métiers proposés, comme par exemple militaire ou policier. Quatrièmement, affirmer ses valeurs républicaines et ses convictions. Alors ça, je vous laisse méditer là-dessus, hein. Et puis cinquièmement, quand même, cerise sur le gâteau, ne riez pas, gagner en autonomie et en indépendance. Et ce n'est pas fini, car le SNU offre gratuitement, vous savez, autrefois il y avait une lessive, on appelait ça bonux. Alors dedans, quand on l'ouvrait, les gamins avaient un petit cadeau. Et là, bah, c'est pareil, vous avez le cadeau bonux, c'est le permis de conduire. Trouver un travail, et quel travail! Et décrocher le permis. Elle n'est pas belle, la vie sous l'uniforme? Or, dès les premiers retours d'expérience, on s'est aperçu avec grand plaisir que les jeunes d'aujourd'hui ne sont pas plus des moutons que ceux d'hier. Il suffit de jeter un coup d'œil sur le site du Monde Libertaire et de taper le mot SNU, SNU, pour s'apercevoir de la grande supercherie et de la réalité de ces quelques jours d'expérience. Beaucoup de jeunes, 40 000 y ayant goûté en 2022, plus que déçus, les ont racontés dans les détails, aussi bien dans les journaux militants que sur leur site Amstramgram, en se frottant directement aux joies intellectuelles et physiques de l'armée. Ils ont eu tout loisir de constater que si les jeunes n'ont pas fondamentalement changé, les militaires encore moins. Ils sont toujours aussi bornés, racistes, sexistes et psychorigides. De tout temps, ils n'ont servi qu'à préparer la guerre. Les guerres ont toujours été bonnes pour les affaires, tout autant et sinon plus que les périodes de paix où les ventes d'armes dites de persuasion se révèlent particulièrement juteuses. L'armée et les guerres ne sont qu'un seul et même venin liberticide et mortifère. Elles ont toujours été et seront toujours les ennemis de nos revendications, des percées d'autonomie, des peuples. L'armée est loin, très loin d'être neutre dans ce que les experts qualifient de guérilla ou de guerre civile. Tant qu'il y aura des militaires et des frontières, nous n'aurons pas la paix. Patrick Schindler signait cet article en octobre 2022 dans Le Monde Libertaire. Bernard Joyer.
Le temps semble s'offrir une sublime pause. Tout est sérénité dans mon joli jardin. Si je me penche un peu, quelle métamorphose! Si je me penche encore, alors là, c'est Verdun. Élytre, carapace, se heurtent, se fracassent, boucliers et carcasses s'entassent dans des trous. Et dans un spasme infime, un soubresaut ultime, les infirmes victimes s'embourbent dans la boue. C'est Verdun. Les griffes s'articulent comme des tentacules portant aux mandibules une nymphe éventrée. Par une plaie ouverte perle la sève verte de cette larve inerte, lacérée, déchirée. C'est Verdun. Cruellement lamente, au demeurant charmante, délicieuse amante, dissèque son amant. Une fourmi géante suce la chair gluante, une cigale pliante qui se meurt en chantant. C'est Verdun. Et le grillon champêtre gesticule sans paître, ses pattes s'enchevêtrent dans les mailles de soie. La nasse arachnéenne de force herculéenne l'enrobe d'une gaine qui étouffe sa proie. C'est Verdun. Titanisé de trouille, les soldats en vadrouille croisent une patrouille de carabes dorées, narguant la citadelle. La brave coccinelle exhibe aux sentinelles son torse décoré. C'est Verdun. On s'incise la carne, on s'étripe, on s'écharne, on s'agrippe, on s'acharne, corps à corps, bout portant, les viscères tranchées, les ailes arrachées et les têtes fauchées jonchent le sol fumant. C'est Verdun. Et quand le jour s'étiole sous le feu des lucioles, les dernières bestioles s'escriment au combat, les sylphes nécrophages passent au ramassage des restes du carnage, des boyaux, des abats. C'est Verdun. Si au-dessus de nous trône un être suprême, il devrait se pencher sur son joli jardin. Les insectes, c'est nous, nos guerres sont les mêmes. La terre est un foutoir qui ressemble à Verdun. Crânes et carapaces se heurtent, se fracassent, boucliers et carcasses s'entassent dans des trous. On s'incise la carne, on s'étripe, on s'échappe, on s'agrippe, on s'acharne, embourbé dans la boue, en débâcle fébrile, des effarés s'exilent, dans la botte imbécile, à piétiner les fleurs, en colonne infinie, une horde bannie, dérive à l'agonie, sous l'œil du prédateur.
Radio Libertaire 89.4, vous écoutez le tour du monde libertaire et nous abordons pour terminer ce petit tour dans les archives du monde libertaire un numéro plus récent, celui d'avril dernier, qui était consacré à la question du nucléaire. Un dossier épais et complet que je vous recommande, c'est pas vu, vous pouvez encore vraiment vous le procurer, ça vaut vraiment la peine, il est très très bien fait. J'ai un témoin à côté de moi qui acquiesce d'ailleurs. Effectivement. Et là, évidemment, on ne va pas revenir sur tout ce dossier. Mais vraiment, je vous invite à vous y pencher parce que parce que c'est un combat important à mener aussi, ce combat contre le nucléaire. Et j'ai juste choisi de vous rappeler quelques raisons essentielles pour appeler à l'arrêt du nucléaire. C'était un article de Annie et Pierre Péguin, des scientifiques défroqués, comme on dit, et qui sont militants antinucléaires dans l'Est de la France, hein, coordination antinucléaire du Sud-Ouest, collectif arrêt du nucléaire. Et voilà ce qu'ils nous disent. Nous risquons en permanence la catastrophe atomique qui dévasterait pour longtemps une grande région et toucherait une nombreuse population. Avec tous ces réacteurs vieillissants et fragilisés par une gestion critiquable, la prochaine sera-t-elle chez vous ? À trois reprises déjà, la catastrophe a été frôlée à Saint-Laurent-des-Eaux en 69 et en 80, au Blayais en 99. Un simple mis au Blayais. Vous imaginez l'évacuation de Bordeaux ? Hallucinant. Un simple missile sur l'une de nos centrales ou un acte terroriste contre l'un de nos multiples transports de matières radioactives, eh oui, aurait des conséquences redoutables. La sécurité de nos centrales repose en dernier ressort sur une technologie du passé, celle de groupes électrogènes pas toujours fiables, chargés d'alimenter le refroidissement du réacteur et d'en éviter la fusion. Le fonctionnement des réacteurs génère en permanence de nouveaux radioéléments très dangereux pour la santé. Ces nouveaux atomes radioactifs dispersés dans l'environnement sont métabolisés par les organismes vivants, se concentrent le long de la chaîne alimentaire et nous contaminent par ingestion, pouvant s'attaquer au fonctionnement de nos cellules et à leur ADN. Les conséquences n'en sont pas immédiates. Mais n'y aura-t-il pas un lien avec la prolifération des cancers, leucémies, maladies diverses qui ne serait pas seulement dû aux pollutions et aux pesticides ? Même si les liens directs sont bien difficiles à établir, sauf pour le cancer de la thyroïde que les pro-nucléaires ont été obligés de reconnaître, les victimes déclarées au voisinage des centres atomiques ou en Biélorussie l'attestent. On sait maintenant que même les faibles doses de contamination ont des effets sur la santé et, plus grave encore, sur la reproduction, les cellules sexuelles y étant très sensibles. Les usines nucléaires telles que Marcoule, Karadash, Pierrelatte et d'autres, mais surtout la Hague, contribuent fortement à la dispersion des radioéléments. Les combustibles usés, extraits des réacteurs et retraités à la Hague justement, sont des déchets d'extrême dangerosité. On ne sait pas les gérer et leur durabilité est infinie à l'échelle humaine. L'enfouissement des déchets de haute activité et de vie longue à Bure dans la Meuse est une monstrueuse faute léguée aux générations futures. La pérennité des emballages enfouis ne peut pas être assurée. La seule solution raisonnable est de les stocker en surface ou subsurface du sol pour pouvoir les reconditionner au fur et à mesure de leur dégradation. Et comment sécuriser tous les sites nucléaires démantelés une fois obsolètes sans à nouveau en reporter la gestion sur nos successeurs. La prolifération de la maîtrise des réactions nucléaires ouvre la possibilité de fabriquer des bombes atomiques à uranium enrichi, à hydrogène, la bombe H, ou encore au plutonium. Le climat délétère actuel fait peser de terribles menaces. De plus, les puissances nucléaires disposent de gros stocks d'uranium dit appauvri, rebut de l'enrichissement du combustible. C'est un métal lourd, placé en tête d'obus pour percer les blindages, largement utilisé par exemple en Irak par les USA. Il émet des rayons alpha et les poussières disséminées et absorbées provoquent de gros dégâts sanitaires, dont des naissances de monstres. Voilà pourquoi il est criminel, à nos yeux, de prétendre poursuivre la production d'électricité nucléaire. Il y a bien d'autres raisons qui ne touchent pas à notre sécurité ni à notre santé, mais qui contribuent à rendre incompréhensible l'obstination de nos dirigeants dans cette technologie d'un autre âge. D'ailleurs, son importance décroît au niveau mondial, ne produisant plus que 2% de l'énergie totale consommée, soit moins que les énergies renouvelables qui s'imposent de plus en plus. Tout d'abord, il convient de dénoncer les mensonges qui nous sont assénés et relayés en permanence par les médias. L'électricité nucléaire n'est pas une énergie décarbonée. Si on considère tous les matériaux et tous les transports nécessaires au développement de la filière nucléaire, depuis l'extraction de l'uranium jusqu'au démantèlement des centrales et la gestion des déchets atomiques pour des temps infinis, on peut difficilement prétendre que l'électricité produite est une énergie décarbonée. Une énergie à faible coût. Depuis toujours, l'État subventionne la recherche, le développement et le fonctionnement de la production d'électricité nucléaire à coups de milliards. Et ce sont nos impôts qui en font une énergie apparemment bon marché. Actuellement, le coût des énergies renouvelables est devenu bien moins cher et les investissements mondiaux dans ces technologies d'avenir dépassent de loin ceux dans le nucléaire. Le leurre de l'indépendance énergétique n'est qu'un mensonge d'État. Nous sommes en fait dépendants de la Russie. La France importe tout l'uranium nécessaire au fonctionnement des centrales depuis le Niger, l'Ouzbékistan et surtout le Kazakhstan, contrôlé par le géant russe Rosatom. Les navires russes livrent donc à Dunkerque ou à Cherbourg l'uranium dont nous avons besoin. Les sanctions imposées à la suite de la guerre d'agression russe en Ukraine ne concernent pas les échanges avec la Russie dans le domaine atomique. Et ce dont on se garde bien de parler. Le nucléaire est présenté comme un recours, ce qui paraît convaincre les jeunes générations. Mais en est-il vraiment un ? Le délai face à l'urgence climatique, la prétention de la gérer par la construction de réacteurs se heurte à des délais bien trop importants, là où des éoliennes ou des installations solaires peuvent être mises en route en quelques années. L'exemple des EPR de Flamanville ou de Finlande montre qu'il faut au moins attendre une quinzaine d'années, et encore, à condition que soit retrouvé un savoir-faire aujourd'hui perdu. En fait, le nucléaire contribue au réchauffement climatique. Non seulement il ne fournit pas une énergie décarbonée, mais en plus il contribue au réchauffement climatique. Le rendement thermique des centrales étant à peine de 1/3, les 2/3 de la chaleur fournie par la fission de l'uranium est dissipée dans l'eau et dans l'air. Peut-on vraiment toujours compter sur nos voisins pour pallier les défaillances du système de production électrique français ? La défaillance de notre mode de production d'électricité unique au monde par la proportion considérable de la part du nucléaire, près de 70%, rend notre pays dépendant des pays producteurs d'uranium, mais aussi des pays voisins sollicités pour pallier les défaillances des centrales françaises. 24 réacteurs à l'arrêt à l'automne 2022 sur 52. Ils ne pourront peut-être pas toujours subvenir à nos besoins. Des installations vulnérables, la sécheresse du printemps et de l'été 2022 a démontré la sensibilité des réacteurs au dérèglement climatique. Énormes consommateurs d'eau pour leur refroidissement, ils sont dépendants du régime fluvial. EDF a dû obtenir des dérogations pour poursuivre la production de plusieurs d'entre eux, malgré la température trop élevée et ou l'étiage insuffisant de l'eau des fleuves. Qu'en sera-t-il des nouveaux EPR construits en bord de fleuve ? Enfin, quelle folie peut conduire ceux qui nous gouvernent à prétendre relancer la construction de réacteurs ? La plupart de nos voisins européens abandonnent le nucléaire et ils ne s'en sortent pas plus mal. Ils ne sont pas retournés à la caverne et à la bougie. Et ce sont même eux qui soutiennent notre système défaillant. La France, État très centralisé, impose le choix politique du développement du nucléaire et en fait assumer les coûts à sa population tout en cachant les effets sanitaires et en neutralisant l'opposition à cette technologie mortifère. Mais n'est-il pas dément que pour assurer quelques décennies de production électrique, on fasse courir tant de risques à la population et qu'on génère des déchets pour toujours ?
Tas de ferraille et vieux caddie, un canapé sur le trottoir, des boîtes de bière dans du cambouis, un coin de rue pour serrer noir, un corridor dans un taudis, des cartons vides et des gravats, tête de mort et graffiti. Le bout du monde est à deux pas, et comme un ange au paradis, un bébé dort ici, et comme un ange au paradis, petit bonhomme, dans tes fossettes, il y a la vie qui vient de loin. Le monde est cul par-dessus tête, il broie les hommes et tourne en vain. Petit bonhomme tombé du ciel, qui saura voir ce beau levain, cette eau de source qui ruisselle, ces gouttes d'or entre tes mains. Que feras-tu de tes dix doigts, magasinier, coursier, livreur, veilleur de nuit ou sans emploi, joueur de couteau, truand, dealer? Du verre brisé, des murs moisis, des vies qui passent sous la minoire. Un corridor dans un taudis, des cartons vides et des gravats, tête de mort et graffiti. Le bout du monde est à deux pas, et comme un ange au paradis, un bébé dort ici. Oui, comme un ange paradis, un bébé dort ici, un bébé dort ici.
Radio Libertaire 89.4, le tour du monde libertaire tire à sa fin. On aurait pu parler un petit peu plus de cette question du nucléaire. Je vous invite tout de même à vous procurer, si vous ne l'avez pas, ce numéro d'avril 2023 sur cette question du nucléaire. Et n'oubliez pas que dans des dizaines de milliers d'années, nos descendants devront gérer les déchets nucléaires que nous produisons aujourd'hui. Cette émission donc tire à sa fin. On va se quitter avec cette très belle chanson de Michel Buller, interprétée par Francesca Solville. Je me bats.
Même si l'heure est parfois à la désespérance, attendu que la frime gouverne et fait sa loi, même si les années dans lesquelles on s'avance ont la couleur du triste et du chacun pour soi, même si le bonheur n'est plus une évidence mais semble s'éloigner à chacun de nos pas, même si l'on me dit que c'est perdu d'avance, que le monde est ainsi et qu'on n'a pas le choix, je me bats. Même si maintenant c'est être en résistance et risquer d'être seul que d'élever la voix pour dire sans relâche l'incroyable arrogance des plus riches que tout, des maîtres d'ici-bas. Même si le normal c'est l'infinie souffrance des enfants décharnés aux yeux vidés sans joie, même si le correct se nomme indifférence, même s'il parle fort ceux qui baissent les bras, je me bats. Je suis d'un temps d'espoir, d'un temps de délivrance où l'on osait rêver et les peuples là-bas faisaient tomber leurs chaînes et brisaient le silence. Oh les jolis printemps, au parfum de lilas, devant nous se levaient des matins d'innocence. Plus jamais il n'y aurait d'humiliés, de parias, plus jamais d'esclavage et plus de violence. N'était-ce pas simplement raison? Dites-moi, je me bats. Aujourd'hui, les passants, sous les néons sinistres, vont chacun dans leur bulle et pressent un peu le pas. Les voyous brassent l'or, les bornés ont ministre et on met chapeau bas devant les renégats. L'époque est au commerce, l'époque est au combine, l'homme n'est qu'un objet que la finance broie. Le futile et l'idiot remplissent les vitrines, cependant qu'au lointain ricane l'argent roi.
me bats.
Avec mes simples mots, avec mes pauvres armes, avec les sacrifiés, les vaincus d'autrefois, tous ceux qui n'avaient rien que leur sang et leurs larmes, les mineurs, les canuts, les piou-piou, les sans-droits, avec les femmes usées, petites sœurs de misère, des bas quartiers debout où se terrent les rats, avec tous ceux d'ici qu'habite la colère, avec les méprisés et ceux qui n'oublient pas, je me bats. Si longtemps que j'aurai la force, qu'on le sache, de me tenir debout, de chanter, d'être là, tant qu'il me restera une once de panache, tant que dans mes veines un sang rouge coulera, je me battrai encore et toujours et sans cesse pour saluer la vie qui palpite, qui bat. Et quand je manierai, ce sera sans tristesse, puisque d'autres viendront qui diront après moi, je me bats, je me bats.
Nous voici à la fin de ce tour du monde libertaire. On se retrouve le lundi 31 juillet à 18h sur cette antenne 89.4, la radio, la radieuse radio sans Dieu ni maître et sans publicité de la glorieuse Fédération anarchiste. Nous feuilletterons ensemble le numéro d'été. Merci à Monique et merci à vous, auditeurs et auditrices, d'être et de rester à l'écoute. Et n'oubliez pas, ni Dieu ni maître.
Mes nuits sans sommeil. En esprit, je revis avec lui les 40 derniers jours qu'il passa, les chaînes aux pieds et parfois aux poignets, dans la cellule des condamnés à mort de la prison de Saint-Brieuc. Les journaux manquent d'à-propos. Ils conçurent d'imbéciles articles pour illustrer sa mort qui coïncidait avec l'entrée en fonction du bourreau Desfourneaux. Commentant l'attitude de Maurice devant la mort, le journal L'Œuvre dit que cet enfant eût été digne d'un autre destin. Bref, on le ravala. Pour moi qui l'ai connu et qui l'ai aimé, je veux ici, le plus doucement possible, tendrement, affirmer qu'il fut digne, par la double et unique splendeur de son âme et de son corps, d'avoir le bénéfice d'une belle mort. Chaque matin, quand j'allais, grâce à la complicité d'un gardien ensorcelé par sa beauté, sa jeunesse et son agonie d'Apollon, de ma cellule à la sienne, pour lui porter quelques cigarettes, levé tôt, il fredonnait et me saluait ainsi en souriant. Salut, Jeannot du matin. Originaire du Puy-de-Dôme, il avait un peu l'accent d'Auvergne. Les jurés offensés par ton de grâce, stupides mais pourtant prestigieux dans leur rôle de parc, le condamnèrent à 20 ans de travaux forcés pour cambriolage de villas sur la côte et le lendemain, parce qu'il avait tué son amant Escudero pour lui voler moins de 1000 francs, cette même cour d'assises condamnait mon ami Maurice Pilorge à avoir la tête tranchée. Il fut exécuté le 17 mars 1939 à Saint-Brieuc.
C'était une commande, et puis une commande du diable, mon Dieu, ça change. Thank you, Satan.
Pour la flamme que tu allumes au creux d'un lit pauvre ou rupin, pour le plaisir qui s'y consume dans la toile ou dans le satin, pour les enfants que tu ranimes au fond des dortoirs chérubins, pour leurs pétales anonymes comme la rose du matin. Satan. Pour le voleur que tu